Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est l'heure d'été là, on sent que on s'installe plus tranquillement. Je vous propose de démarrer notre conseil par l'appel. Lionel.
Pierre Mallet, Marie-Christine Lamotte, Jean-Max Croze, absent, pouvoir à Pierre Mallet, Jean-Yves Paronneau, Christian Sonnet, Dominique Clavé, absent, pouvoir à Louis Pascal, Jeannette Deletré, Louis Pascal, Frédéric Carrère, Joël Mallet, Jean-Marie Esquier, Guy Sibu, Jean-Paul Alire, Gérard Apestegui, Robert Duezo-Méral, Catherine Demême, Geneviève Dariussec, Hervé Bayard, Muriel Croze, Bertrand Tortigue, Marie-Christine Bourdieu, Charles Daillot, Chantal Davidson, Farid Eba, Eliane D'Arteron, Antoine Vigneault-Tuquet, Catherine Piquet, Jean-Paul Gantier, Catherine Dupouille-Ventrepol, absente, pouvoir à Nicolas Tachon, Gilles Chauvin, absent, pouvoir à Hervé Bayard, Chantal Couturier. Bruno Ruffia, Chantal Planchenot, Nicolas Tachon, Stéphanie Chédad, Thierry Soko-Diabert, Pascal Horry, Jean-Marie Badby, Marina Bancon, Renaud Laïtette, Elisabeth Soulignac-Gerbeau, Didier Simon, absent, pouvoir à Elisabeth Soulignac-Gerbeau, Karen Juan, absente, pouvoir à Renaud Laïtette, Julien Tunès, Véronique Glaise, Sylvie Hingan, Michel Garcia, Jean-Paul Le Tyran, Florence Thomas, Xavier Dumoulin, Jean-Louis Dariotor, Régine Nellig, Patrick Dangoumont, Joël Bonnet, Delphine Salambier, Bernard Kruzinski, Marie-Denis, Olivier Boissé, Laetitia Tachon, Éric Mezrich, Marilyn Rousseau et Denis Capdeviol.
Merci. Alors, je vais vous demander d'approuver plusieurs procès-verbaux. Le procès-verbal de la séance du 14 avril. Est-ce qu'il y a des choses qui auraient été dites et mal retranscrites? S'il n'y a pas de problème, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, il est donc adopté à l'unanimité. Le procès-verbal de la séance du 22 avril. Pas de problème, donc pas d'avis contre, pas d'abstention, il est adopté à l'unanimité. Et le procès-verbal de la séance du 24 avril, y a-t-il des choses? Non, pas d'avis contre, pas d'abstention. Abstention, monsieur Apestegui? Vous n'étiez pas là. Donc une abstention. Il est donc adopté. Je vous remercie. Le compte rendu des décisions que j'ai pu prendre entre le 24 avril et le 4 juin. Alors, je ne vais pas en faire une lecture exhaustive. Il y a différentes choses. Des MAPA, des demandes de subventions, des avenants pour le site des Neuf Fontaines. Des conventions de mise à disposition pour la base de loisirs, l'accueil d'un étudiant en stage rémunéré, une installation à la fabrique. Voilà. Bon, est-ce que vous avez des questions sur un de ces une de ces décisions. Bien sûr, je suis là pour y répondre. Il n'y en a pas. Très bien. Bien, mais je vous propose simplement de démarrer notre ordre du jour, sachant que nous avons la première délibération qui est quand même très importante pour notre territoire, puisqu'il s'agit de l'approbation du schéma de cohérence territoriale. Ce SCOT, nous l'avons travaillé pendant de très nombreux mois, maintes et maintes réunions. Nous l'avons. L'enquête publique a eu lieu. Nous avons répondu aux différents points qu'ont soulevé et qu'a soulevé l'enquête publique. Et nous pouvons donc maintenant l'approuver totalement. Alors, bon, c'est un document important puisqu'il trace un petit peu l'avenir de notre territoire sur les années à venir, les 20 années à venir. Et bon, c'est quand même un moment important pour la collectivité. Je vais passer la parole à Pierre Mallet qui a porté ce dossier depuis le départ.
Merci Madame la Présidente. Alors cette délibération vous propose l'approbation donc, du schéma de cohérence territoriale. Je ne vais pas vous faire une lecture de la délibération, je vais plutôt essayer de retracer un peu rapidement le cheminement qui a été le nôtre. Donc le SCOT a été lancé en 2002 par notre collectivité et le périmètre a été défini par Monsieur le Préfet la même année, au mois de juillet. En juin 2010, nous avons repris donc ce dossier qui n'avait pas beaucoup évolué et nous avons eu beaucoup de débats sur les grandes orientations dans le cadre du PADD, le projet d'aménagement et de développement durable, qui a suscité beaucoup de travail. Nous avons fait en tout et pour tout, je crois, sur ce dossier 45 ou 6 réunions. Vous voyez que le travail n'a pas manqué. En février 2012, bilan de concertation et arrêt du projet. Juin 2012, réception des avis des personnes publiques associées et rencontre en préfecture. Rencontre qui nous a permis de noter que des éléments manquaient à notre dossier. Un document d'aménagement commercial en tant que tel et une évaluation environnementale un peu plus complète. A souligner aussi, durant l'été 2012, le passage de notre SCOT en CDCEA, la Commission départementale de consommation des espaces agricoles et forestiers. Nous étions d'ailleurs le premier SCOT des Landes à passer, alors je ne dirais pas sous les fourches codines, mais à passer dans cette commission qui est devenue très très importante, puisque je dis cette commission a le pouvoir de faire et de défaire les documents d'urbanisme, et surtout très très vigilante, pour deux raisons, hein, que vous comprendrez très bien, c'est qu'une fois que le SCOT est approuvé, a reçu l'avis favorable de cette CDCEA, tous les documents d'urbanisme qui sont couverts par ce SCOT ne passent plus en CDCEA, c'est-à-dire nos PLU, pour être clair, des 18 collectivités. Voilà, donc nous avons reçu un avis favorable de cette commission départementale en juin 2012. Nouveau bilan de concertation et arrêt du projet SCOT qui intègre les éléments demandés en matière d'environnement et de commerce. En mai 2013, réception des avis des personnes publiques associées. Juin 2013, déroulement de l'enquête publique. Réception des rapports et conclusions motivées de la commission d'enquête avec un avis favorable sur le SCOT avec quelques recommandations. Et un avis défavorable sur le DAC, notamment lié à des inquiétudes par rapport à l'activité de la BA 118. Inquiétudes qui depuis ont été levées, ce qui nous permet aujourd'hui d'approuver notre SCOT au regard des démarches qui ont été faites et surtout des éléments qui ont été apportés en complément de notre SCOT. Alors trois petites précisions avant d'évoquer les modifications. Tous ces éléments-là ont été présentés en commission de développement le 21 mai dernier et appuyés par un PowerPoint, notamment pour les nouveaux élus, puisque le SCOT, c'est quand même quelque chose de très, très lourd et c'est au niveau de notre territoire. Donc, il était important que chacun s'imprègne un petit peu des grandes orientations, puisque, comme l'a dit Madame la Présidente, c'est un document qui doit tracer et flécher notre développement jusqu'en 2030. Donc, lors de cette commission, a été rappelé que la date d'approbation, c'est-à-dire ce soir, si nous approuvons le SCOT, ce sera le point de départ du décompte de notre consommation foncière. Il est à noter que nous avons, la CDCEA, j'en ai parlé tout à l'heure, était très vigilante là-dessus. Nous avons tous, les uns et les autres, consommé de l'espace. Alors, on a l'habitude de dire que dans les Landes, on n'a pas de richesse, mais que de l'espace, on en a. Maintenant, contrairement à une idée reçue, on n'en a pas, on n'en a plus, et on n'a surtout plus les moyens d'étendre nos réseaux. Donc il faut aujourd'hui être plus vigilant. Et nous avons été, je dirais, un petit peu précurseurs dans cette démarche, puisque dans le cadre du SCOT, nous avons économisé, alors je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 38 ou 40% par rapport à ce que nous avons consommé les 10 dernières années, ce qui est énorme et qui va bien au-delà des prescriptions qui nous avaient été imposées. Je voulais rappeler aussi, avant que vous votiez cette approbation, que les communes, une fois que le SCOT est approuvé, ont 3 ans pour se mettre en conformité avec ce SCOT. Bon, dans les compléments et les précisions, je pense que tout le monde a pris le temps et de lire la délibération et de consulter le CD qui était joint avec. Donc vous avez pu prendre connaissance des précisions qui sont surtout des précisions techniques. Hein. Le SCOT en lui-même n'a pas été modifié. C'est pour ça d'ailleurs que les bilans de concertation ont été faits, mais que le PADD n'a pas été retouché. Voilà. Alors pour information, la loi Allure, vous entendez tous parler de la loi Allure, on en a parlé lors de la dernière commission. Cette loi Allure va nous prescrire des tas d'obligations, notamment pour notre collectivité, la prise de compétence du droit du sol à partir du 1er juillet 2015. Elle va aussi imposer les PLUI, c'est les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, qui deviendront de fait applicables le 27 mars 2017. Alors je vous dis ça un peu par anticipation, parce que en fait le SCOT, j'ai l'habitude de dire en commission que c'est juste la première marche d'une démarche qui doit nous amener beaucoup plus loin. Alors on a eu la chance, je crois, dans cette agglomération, et je parle... sous couvert de mes collègues, on a eu la chance d'avoir des débats quelquefois agités, mais qui ont permis au moins d'aller loin, très loin quelquefois, notamment dans la consommation du foncier, et qui nous permettront, je pense, demain, de travailler de façon beaucoup plus posée sur ces PLUI, puisque je pense que, comme pour le reste, il vaudra mieux être volontariste qu'attendre la date butoir et se retrouver devant le fait accompli. Voilà, Madame la Présidente, les commentaires que je voulais faire pour cette délibération.
Merci Pierre. Alors, y a-t-il des questions, des interventions, Madame Soulignac ?
Je ne sais pas comment ça marche.
Alors, nous partageons les objectifs généraux du SCOT et notamment la volonté de densifier le tissu urbain. Cet objectif est utile pour limiter la consommation des espaces agricoles et naturels. Ça favorisera aussi l'efficacité des infrastructures collectives. Toutefois, nous souhaiterions proposer un ajout qui peut tout à fait s'insérer sans remettre en cause la logique du SCOT. Comme chacun le sait, en l'absence d'intervention publique, le foncier agricole est grignoté par l'urbanisation et l'artificialisation des sols. L'objectif du SCOT de réduire la consommation des espaces naturels et agricoles de 38% est une réponse. Mais le foncier qui reste est lui-même en proie à un fort mouvement de concentration. Le département des Landes n'échappe pas à cette évolution. En 10 ans, entre 2010, le département a perdu un quart des exploitations agricoles. Le rapport de présentation mentionne à juste titre que dans les Landes, toujours entre 2000 et 2010, 10 800 hectares ont été transférés vers des usages non agricoles. Il faut savoir que ce solde négatif est la résultante de 2 évolutions contraires. D'une part, les grandes exploitations se sont agrandies de 12 800 hectares, pendant qu'en même temps, les petites et les moyennes exploitations ont perdu 23 600 hectares. Cela traduit la difficulté qu'ont les candidats à l'installation pour accéder au foncier qui est de plus en plus cher. On pourrait corroborer ce constat en indiquant que le canton de Mont-de-Marsan-Nord ne compte en 2010 que 10 chefs d'exploitation qui ont moins de 40 ans. Et que de 2010 à aujourd'hui, il n'y a eu que 6 installations aidées avec les aides nationales. Donc, on estime important de mentionner que parmi les objectifs du SCOT, il y a aussi la volonté de favoriser l'installation agricole, y compris sur de petites structures, parce qu'en fait, ça correspond à des créations d'emplois. Il est constaté par ailleurs que des jeunes s'installent sur des petites surfaces et des schémas de commercialisation qu'on appelle couramment circuits courts. Des producteurs de fruits et légumes, il en existe déjà, ils viennent alimenter le marché. Il y a aussi des AMAP et des magasins de producteurs. Mais le SCOT, traduisant une vision à 15-20 ans,
on peut raisonnablement supposer que l'engouement grandissant pour l'approvisionnement local se vérifiera ici aussi. Donc par conséquent, en matière de développement économique, on proposerait d'ajouter une phrase qui indique qu'au-delà de l'approvisionnement de l'agroalimentaire, qui est aussi une chose nécessaire, le SCOT veillera à favoriser les installations de jeunes qui travaillent sur des schémas circuits courts. Je vous remercie.
Bien, merci. Je ne peux qu'adhérer à une partie de ce que vous avez dit. Je voulais juste préciser que dans le cadre du SCOT, il est déjà acté que les terres agricoles de qualité seront préservées et que tous les documents d'urbanisme, quels qu'ils soient, que ce soit le SCOT ou nos futurs PLU ou PLUI, devront nécessairement avoir en amont un diagnostic agricole. Donc ce qui va tout à fait dans le sens de ce que vous dites. Après, malheureusement, concernant les installations, je pense que ce n'est pas juste qu'un problème de foncier aujourd'hui.
Bien. Donc, a priori, les choses sont faites, ont été écrites de sorte à répondre à ce que vous demandiez, Madame Soulignac. Donc, bon, il n'y a pas d'ajout complémentaire à envisager. Et j'ai bien compris que, de toute façon, c'est du formalisme. Et puis j'ai bien compris aussi, ou il me semble aussi, que ce sont surtout les candidats à l'installation qui manquent. Si, je suis bien un peu les affaires agricoles landaises et nationales. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Apestegui.
Oui, juste une intervention sur le principe. J'ai bien compris qu'on a 3 ans pour mettre les PLU en cohérence avec le SCOT. Et monsieur le vice-président a parlé donc de PLUI. Dès le moment où les PLUI vont être mis en place, que deviennent nos PLU?
Alors, tant que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'au 27 mars 2017, les PLUI s'appliqueront de fait. Rien ne nous empêche d'être volontaristes et de réfléchir dans une deuxième étape, c'est ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, à anticiper cette démarche-là pour ne pas se la voir imposée. Tant que le PLUI n'est pas opposable, ce sont nos documents d'urbanisme qui fonctionnent. Mais on aura, je pense, tout intérêt, comme on l'a fait pour le SCOT, à débattre en amont, je pense peut-être même dès l'automne, à commencer à y réfléchir pour anticiper cette loi qui va s'appliquer et nous n'aurons pas d'autre alternative que de l'appliquer, y compris sur l'agglomération.
Alors moi j'étais, bon, je dois dire que personnellement je suis favorable au PLUI depuis bien avant la loi Allure et je pense que au lieu de faire chacun des PLU dans nos communes, on avait le SCOT et puis le moyen de d'appuyer un PLUI sur le SCOT. Mais que vont devenir les PLU ensuite? Je pense surtout qu'ils vont servir de matière pour élaborer un PLUI en premier lieu. Et ensuite, s'il y a un PLUI, c'est le PLUI qui fera force de référence. Pierre.
Oui, pour compléter l'information, en fait, notre SCOT, dans la mesure où il est approuvé, il servira un peu de PADD, de document de repère, pour mettre en place nos PLUI. Et les PLU, parce que dans notre collectivité, une majorité de communes ont déjà mis des PLU en route, donc les PLU qui seront conformes au SCOT seront pratiquement déjà des PLUI en puissance. Il n'y aura pas de grandes modifications. C'est pour ça que j'ai dit le travail qu'on a fait, vous savez, les uns et les autres, en amont, notamment sur la consommation foncière, qui est quand même un des piliers de ce SCOT, nous servira pour les PLU.
Y a-t-il d'autres interventions? Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, moi, je vous propose de passer au vote de ce document. Alors, c'est vrai que les nouveaux élus ont le temps de voir le CD et de voir tout le document qui est assez important. Mais c'est un moment important pour notre collectivité, hein, parce que c'est un... Alors, j'avoue que pour nos concitoyens, ça parle pas du tout, ces affaires-là, enfin, en grande majorité, quoi. Hein, ce sont des termes barbares, les SCOT, les PLU, les PLUI, bon.
Mais c'est vraiment une organisation du territoire et ça met en avant quand même des volontés fortes. D'abord d'aller dans les axes de développement durable, ce qui était ce qu'on avait demandé, hein. Et ensuite d'organisation de notre développement économique, de notre développement commercial et tout simplement de notre développement tout court. Donc je crois que c'est un document qui est vraiment important. Et d'ailleurs, avant le vote, je voudrais très sincèrement remercier Pierre Mallet parce qu'il a fait un travail très très important. Alors il a rappelé qu'il avait été décidé de faire un SCOT en 2002. Mais c'est vrai qu'en fait, on l'a démarré en 2010, parce qu'à 2002, à 2010, il n'y avait rien eu sur ce document, et que c'est quand même un travail qui a été fait, qui a été long, mais dont c'est l'aboutissement aujourd'hui. Donc merci beaucoup, Pierre, d'avoir fait ce travail important, et qui nécessitait aussi qui a nécessité beaucoup de discussions et qui nécessitait beaucoup de... d'avancer des uns et des autres, quoi. Nous étions vraiment dans le gagnant-gagnant, en définitive. Voilà, pour faire gagner notre territoire. Bien, y a-t-il des votes contre ? J'en vois pas. Hein. Y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes pour ? Moi, j'aime bien pour les documents importants qu'on vote pour. Donc, notre SCOT est adopté à l'unanimité... Approuvé, pardon, à l'unanimité, et j'en suis très heureuse. Bravo Pierre.
C'est le début, c'est pas la fin.
Oui, c'est le début, ben oui, mais il faut un début. La convention de partenariat en faveur de la promotion de l'efficacité énergétique. Thierry Socodia-Béer va nous présenter cette délibération.
Merci Madame la Présidente. Donc le dispositif des certificats d'économie d'énergie, créé par les articles 14 à 17 de la loi POP, constitue l'un des instruments de maîtrise de la demande énergétique. En effet, ce dispositif repose sur une obligation triennale de réalisation d'économies d'énergie en CEE, imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d'énergie, appelés obligés. Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l'efficacité énergétique auprès de leurs clients, qu'ils soient ménages, collectivités territoriales ou professionnels. Les CEE sont attribués sous certaines conditions par les services du ministère chargé de l'énergie aux acteurs éligibles, réalisant des opérations d'économie d'énergie. Ces actions peuvent être menées dans tous les secteurs d'activité, que ce soit du résidentiel, du tertiaire, de l'industriel, de l'agricole, du transport, etc., sur le patrimoine des éligibles ou auprès de tiers qu'ils ont incité à réaliser des économies d'énergie. Par ailleurs, le dispositif des CEE contribue, en sus de la maîtrise de la demande énergétique, au développement des énergies renouvelables. Il est ainsi prévu que l'installation d'équipements permettant le remplacement d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable pour la production de chaleur consommée dans un local à usage d'habitation ou d'activité agricole ou tertiaire donne lieu à la délivrance de CEE. Dans ce cadre légal, l'entreprise Certinergie, société de services en efficacité énergétique sise à Paris, propose au Marsan Agglomération de conclure une convention de partenariat en faveur de la promotion de l'efficacité énergétique. Le partenariat repose sur une cession du droit à réclamer les certificats d'économie d'énergie d'une opération préalablement aux travaux et indépendamment du marché de travaux. Le projet de convention prévoit l'équivalence financière entre, d'une part, la participation financière de Certinergie aux opérations d'efficacité énergétique éligibles au dispositif des C2E réalisées par la communauté d'agglomération, et d'autre part, les certificats d'économie d'énergie CDI. Le versement de la participation financière de Certinergie après réception des travaux de l'opération concernée, sous réserve de l'enregistrement préalable des CEE sur le compte de Certinergie. L'exclusion de toute autre prestation de service au bénéfice de la collectivité publique. Il est enfin précisé qu'au vu des modalités de la convention si avant développée, celle-ci ne relève pas des règles de la commande publique. Alors pour ceux qui ne seraient pas habitués avec certains termes comme le kilowattheure QMAC, je me propose de vous donner un exemple. Si on prend un équipement qui soit énergivore, on va dire une ancienne... Une école bâtie, on va dire, il y a 40 ans, qui fonctionnerait avec une chaudière au fioul d'il y a 40 ans, que l'on en change la chaudière aujourd'hui par une chaudière à condensation. Prenons l'exemple que la première année en fasse une économie de consommation de carburant de 100 MWh. Il est appliqué à partir de la deuxième année un coefficient de désuétude de l'équipement de 4%. Prenant l'exemple de cet équipement, de sa durée de vie de 15 ans, on arrive en fait en termes d'économie d'énergie sur les 15 années, donc à 1145 MWh d'économiser. Ces 1145 MWh représentent donc 1145 CEE, certificat d'économie d'énergie. Aujourd'hui, sur le marché, c'est comme une bourse, hein, ces certificats d'économie d'énergie sont monnayables aux alentours de 3 euros. C'est la valeur moyenne estimée sur le marché. Donc pour un remplacement d'équipement de ce type qui apporterait cette économie sur 15 ans, l'agglomération percevrait donc une somme de 3 435 euros à l'heure actuelle. Voilà pour l'exemple.
Vous avez tous compris l'exemple ? Le calcul, je remets pas en cause Thierry, je veux juste signaler la complexité de toutes ces choses là et qui sont pas facilement compréhensibles, pas du premier coup toujours, il faut quelquefois relire trois fois et les modes de calcul, mais Thierry l'a très très bien expliqué par contre. Bien, y a-t-il des questions ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Nous passons là toujours dans l'aménagement, le versement d'une participation. Je fais un condensé de mots de la commune de Campagne pour le financement de travaux d'aménagement de la place de l'église dans le cadre de l'opération d'aménagement de Bourg. Pierre Mallet.
Bien, cette délibération vous propose d'acter la participation de Campagne en fonds de concours pour son projet d'aménagement de Bourg. Vous connaissez le principe. La participation de la commune pour cet aménagement supplémentaire est versée sous forme de fonds de concours. Vous avez le plan de financement prévisionnel. Le total des travaux s'élève à 583 333 euros hors taxes. Le massa agglomération pour 356 656, le fonds de concours 166 667 hors taxes et 60 000 euros de subvention.
Bien, pas de questions. Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Le bourg de Campagne va être magnifique. Ben oui. C'est pas encore fait, mais il va être magnifique. Enfin, j'avais vu des plans, c'est pas mal quand même. La convention de labellisation Handiplage pour la base de loisirs du Marsan. Joël Bonnet.
Oui, dans le cadre des travaux qui ont été mis en place au niveau de la base nautique de Ménas. Un certain nombre de travaux ont déjà commencé, notamment l'accessibilité de la plage avec un tapis roule, c'est-à-dire un tapis qui permet aux fauteuils roulants de pouvoir accéder, et l'acquisition de deux tapis roules qui sont des tricycles qui permettent d'accéder à la plage. Vont permettre d'avoir dans un premier temps un label en handiplage. Donc tout ça a été mis en place dans le courant de la semaine dernière, ce qui fait que à l'ouverture de la base nautique, tout ceci était en place.
Voilà, donc nous avons obtenu le label handiplage 2 par l'association qui gère ça, et je devrais signer très prochainement le document qui se rapporte à ce label avec le président de l'association. Bon, c'est une bonne chose, nous allons continuer les travaux d'accessibilité sur ce site. Y a-t-il des questions ? Si, alors ce site a ouvert ou ouvre ? Il a ouvert...
il a ouvert ce week-end.
Non, mais c'est important parce qu'il fait chaud. Et il devait y avoir du monde. Donc, les maîtres nageurs sont en place, les surveillants de baignade, toutes les équipes sont en place. Le label Handy Plage arrive et je crois que j'espère que nous aurons une belle saison. Oui.
À ce titre également, en complément d'information, il y a deux maîtres nageurs qui font une formation spécifique Handy Plage en tant que surveillant.
Parfait. Bien. Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Je peux signer la convention. Deux ventes de foncier au parc Mamoura, Pierre Mallet.
Alors, un projet de vente pour la société SARL Piscine et Loisirs de M. Dabadi, donc sur Mamoura 1, pour une surface approximative de 4644 mètres carrés, au prix de 28 euros hors taxe le mètre carré. C'est une relocalisation de cette société.
Bien, y a-t-il des questions ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. La seconde vente ?
Alors, c'est la même chose pour la SARL Banji, qui est la société mère d'un opérateur global. Deux sociétés vont s'implanter. Alors là, c'est sur Mamoura 2, c'est-à-dire à l'arrière de la Scalande, la deuxième partie qui a été aménagée et viabilisée. Il y a environ 7500 mètres carrés au prix de 25 euros hors taxe le mètre carré. Et là, il y a une partie, c'est de la relocalisation pour la société Safim et une nouvelle entreprise, Mesplaid Prolian. C'est du négoce de produits industriels.
Des questions ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. C'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant passer au transport et vous proposer un avenant au contrat d'exploitation de services publics de transport. Je vais donner la parole à Bertrand Tortigue pour qu'il vous présente la délibération.
Merci Madame la Présidente. Donc, c'est une délibération qui nous oblige donc à passer en avenant vers la société donc Transdev du fait que nous sommes obligés d'apporter trois modifications à ce contrat. La première modification est due effectivement à l'augmentation de la TVA qui, par décision gouvernementale, est passée au 1er janvier de 7 à 10%. Donc, bien sûr, nous sommes obligés d'adapter donc nos grilles tarifaires avec ce nouveau taux de TVA. Je ne vais pas vous donner tous les nouveaux tarifs, vous les avez dans la délibération. Ce que je peux vous dire, c'est que l'agglomération a pris en charge jusqu'à ce vote-là, donc la participation de ce supplément de TVA. C'est pour ça que dans un premier temps, nous avons un supplément sur les recettes de 5 348 euros hors taxes à payer, plus un abondement qui correspond à notre contrat signé en 2011 de 5 128,82 euros hors taxes à signer. Point de vue tarif, je peux vous dire que nous avons quand même des tarifs assez attractifs, puisque dans les agglomérations de moins de 100 000 habitants, le prix moyen de l'abonnement mensuel est à 25 euros. Nous sommes à 16 et le prix moyen d'un abonnement annuel est à 256 euros et nous sommes à 145. Deuxième sujet concernant la modification de cet avenant, c'est que nous allons arrêter de louer les vélos électriques à l'année. Vu le peu de vélos qu'il y a, il en avait 10, et le succès donc qu'il rencontrait, certaines personnes d'agglomération se sentaient lésées car ils étaient tous loués à l'année. Et donc nous avons décidé de ne plus les louer à l'année, mais uniquement sur 12 semaines glissantes, sur une année glissante. Vous avez donc dans la délibération les tarifs de location des différents vélos. Et ensuite, troisième motif de modification de l'avenant, ce sont les applications des nouveaux rythmes scolaires donc à Mont-de-Marsan dès la rentrée 2014. nous sommes obligés de faire, donc en avenant, de faire un circuit le mercredi matin, un aller, un retour, pour desservir deux écoles de Mont-de-Marsan, l'école du Bourgneuf et l'école du Pouille. C'est un circuit qui part de l'hippodrome et qui va jusqu'au Bourgneuf en passant par le camp du Rond, et un circuit qui va de Chourier, les Couturelles, tout ça, et qui va à l'école du Pouille. Donc bien sûr, donc, ça a des conséquences financières. Le calcul a été fait, ça correspond à 36 mercredis, donc sur une année scolaire là-dessus, sur ce qui correspond aussi à 1728 kilomètres de trajet, et vu le prix du contrat à 58, ce qui fait une somme de 9 296 euros hors taxes. Donc voilà les modifications donc, au contrat. Vous avez dans les libérations donc, les nouveaux comptes d'exploitation avec ce nouvel avenant inclus. Voilà, présidente.
Très bien. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, l'hippodrome des Grands Pins. Reversement du prélèvement Paris Hippique à la commune de Mont-de-Marsan. Hervé Bayard.
Merci, Madame la Présidente. Donc, dans cette délibération, il s'agit d'adopter une convention permettant à la communauté d'agglomération de reverser une taxe. Jusqu'alors, une taxe fiscale sur les paris hippiques, jusqu'alors perçue par la ville de Mont-de-Marsan. Alors, la loi de finances pour 2013 est venue modifier, en effet, l'article 302 du Code général des impôts relatif à la perception d'une taxe fiscale sur les paris hippiques. Au terme de cet article, il est institué pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de course un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs. Antérieurement à la parution de la loi de finances pour 2013, les recettes fiscales issues des paris hippiques étaient perçues par la commune de Mont-de-Marsan, propriétaire de l'hippodrome des Grands Pins. La recette ainsi constituée était dès lors inscrite au budget de la collectivité afin de répondre aux dépenses induites par le fonctionnement de l'hippodrome. En effet, en tant que propriétaire du bien, la commune de Mont-de-Marsan a à sa charge l'ensemble des obligations liées à l'exercice du droit de propriété et doit veiller au bon fonctionnement du site. Sur le fondement de la rédaction nouvelle de l'article en question, le Marsan Agglomération est aujourd'hui le bénéficiaire exclusif de la taxe sur les paris hippiques. Au vu de ces statuts, la communauté d'agglomération n'a en aucune façon la charge de cet équipement ou des activités qui en découlent. Le nouveau dispositif prive ainsi la commune de Mont-de-Marsan d'une recette fiscale substantielle utile au maintien de ses équipements publics et notamment celui de l'hippodrome des Grands Pins. Il apparaît donc juste que la communauté d'agglomération s'engage à reverser à la commune de Mont-de-Marsan l'ensemble de la fiscalité dont elle sera bénéficiaire au titre du prélèvement sur les paris hippiques. Il est nécessaire d'établir entre les parties une convention qui fixe les modalités de reversement de la dite fiscalité. Le montant de cette taxe pour cette année était de 42 000 euros.
38 000 l'an dernier et 17 000 la première année, parce qu'il n'y a que 3 ans que cela existe, que nous avons des courses qui, avec Paris qui donnent des recettes fiscales à la commune. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? À moins que l'agglomération veuille prendre en charge la compétence hippodrome. Pas d'avis contre ? Pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Alors, la modification des statuts de la communauté d'agglomération. Nous avons une modification des statuts apportée. Alors, la première modification, je vais essayer de présenter cette délibération. La première modification concerne tout simplement la mise en conformité liée au nombre et à la répartition des sièges issus de l'accord local validé par l'arrêté du préfet des Landes en date du 18 octobre 2013. Donc c'est la répartition que nous avions décidée et que nous avions votée et qui est celle de notre conseil communautaire maintenant. La deuxième modification... c'est la mise en conformité liée au bureau. avec, il faut mettre en conformité les statuts communautaires et en modifiant les dispositions de l'article 9 dorénavant, qui sera rédigé ainsi, conformément aux dispositions de l'article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales, le bureau de la communauté comprend le président, un ou plusieurs vice-présidents et éventuellement un ou plusieurs autres membres, conseillers communautaires titulaires, sachant que la composition et le fonctionnement du bureau sont précisés dans le règlement intérieur du conseil communautaire. Ça dit bien aussi que ça comprend un représentant de chaque commune, bien sûr, si celle-ci n'est pas représentée par le président ou un vice-président. Donc nous voterons le règlement intérieur. Nous aurons un vote sur le règlement intérieur au mois de septembre. Pardon, voilà. Ensuite, nous avons un point sur l'extension de la compétence obligatoire action développement économique. Je vais laisser la parole à Pierre Mallet pour qu'il explique cette extension.
Oui, depuis le début de l'année, nous travaillons avec la région sur l'architecture de ce que pourrait être ce règlement d'intervention, puisqu'il nous semblait cohérent de pouvoir intervenir directement en appui, je dirais, des nouvelles entreprises qui pourraient s'installer ou de celles qui voudraient se développer sur notre territoire. Nous travaillons également avec un juriste sur le droit européen qui encadre strictement ces aides économiques. Donc nous allons dans le courant de l'été, si toutefois vous actez cette modification de statut, nous aurons un travail de rédaction de ce règlement pour proposer aux élus à la rentrée une trame d'aide qui pourrait voir plusieurs axes de travail, l'aide à la transmission d'entreprises. Il faut savoir que 150 entreprises artisanales ont des dirigeants de plus de 55 ans, donc ils sont potentiellement concernés. On pourrait peut-être soutenir l'acquisition foncière pour faciliter de l'implantation, aider à l'investissement, aider aussi à l'innovation technologique pour proposer un financement simple aux porteurs de projets dans les secteurs des TIC. Et je vous rappelle que pour 2014, dans le budget, avait été inscrit 100 000 euros pour cette ligne-là.
Très bien. Donc, nous étendrions la compétence avec attribution d'aides conventionnelles, directes ou indirectes, dans le cadre du régime des aides économiques fixées au plan européen, national et régional et sur le fondement du règlement d'intervention approuvé par le Conseil communautaire. Voilà. Et dernière modification, c'est l'exercice d'une cinquième compétence librement choisie en matière d'action culturelle. Donc nous exerçons la compétence optionnelle relative à la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire. Et en matière culturelle, donc ont été définis d'intérêt communautaire le pôle culturel du Marsan, la médiathèque du Marsan, la bibliothèque annexe, le marque-page. Pour une meilleure visibilité de ces actions de soutien et sans rapport direct avec la compétence optionnelle construction, aménagement, entretien et gestion, il nous apparaît opportun de vous proposer d'intégrer ce dispositif d'aide dans une nouvelle compétence librement choisie intitulée action culturelle. En outre, c'est pour toutes les subventions qui sont données aux communes, le règlement de subvention pour l'aide culturelle. Hein. C'est dans le schéma que toutes les communes ont une petite aide. Bon, voilà. Donc intitulé Action culturelle. Et en outre, dans la perspective d'aboutir à une vraie politique culturelle, ce qui nous manque vraiment, c'est de pouvoir être organisateur ou co-organisateur d'événements culturels en dehors de ceux qui peuvent avoir lieu dans l'enceinte des équipements communautaires. Effectivement, nous pouvons organiser des spectacles dans le pôle culturel, mais nous ne pouvons pas organiser des spectacles ailleurs. Et nous avons par exemple Marsan-sur-Seine, où il y a des spectacles qui sont mis en œuvre pour lesquels nous devons systématiquement passer par le tissu associatif pour pouvoir développer des choses. Et quelquefois, il peut y avoir des spectacles où nous n'avons pas le support associatif adapté et ça rend les choses un petit peu compliquées. Donc voilà, l'idée, c'était de pouvoir directement... organiser des spectacles culturels. Donc en fait, les modifications que l'on vous propose, donc dans le cadre du schéma culturel territorial, soutien financier et logistique aux manifestations culturelles soutenues par les communes membres, dont sont exclues les fêtes nationales, les fêtes traditionnelles et patronales et les fêtes festives. Mince, c'est la Madeleine. Il est précisé. Il est précisé, d'une part, que ces manifestations ne devront pas entrer en concurrence avec les programmations effectuées dans le cadre communal par les communes membres, bien sûr, et d'autre part, que les actions seront obligatoirement portées ou accompagnées par une commune membre. Et l'organisation ou la co-organisation de manifestations culturelles à rayonnement intercommunal est proposée à un large public. Donc c'est une petite modification de notre compétence culture, en définitive, que nous avions surtout sur les équipements et qui évolue un petit peu. Avez-vous des questions sur toutes ces modifications? Parce que nous vous les avons... Non? Bien. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Une demande de classement de l'Office du tourisme du Marsan en première catégorie. Joël Bonnet.
Oui, Madame la Présidente. Donc, par délibération en date du 27 mars 2012, le Conseil communautaire a approuvé la création d'un office de tourisme communautaire sous la forme d'un établissement public industriel et commercial et a adopté les statuts de l'établissement. L'Office de tourisme du Marsan est actuellement classé dans la catégorie 3 étoiles en vertu de l'arrêté préfectoral en date du 10 janvier 2010. L'établissement est susceptible de répondre aux nouvelles normes de classement des offices de tourisme de la première catégorie. L'office de tourisme classé dans la catégorie 1 est une structure de type entre... C'est moi qui... Non, il était tiens.
Continuons.
Donc l'office du tourisme classé dans la catégorie 1 est une structure de type entrepreneuriale ayant vocation à fédérer les professionnels et à développer l'économie touristique dans sa zone géographique d'intervention, laquelle supporte un flux touristique naturel important de provenance nationale et internationale. Son équipe polyglotte est nécessairement pilotée par un directeur. Elle se compose de collaborateurs spécialisés selon les axes de développement de la structure et du territoire. Elle déploie des actions de promotion à vocation nationale ou internationale. La structure propose des services variés de nature à générer des ressources propres et à justifier une politique commerciale déterminée. Le recours aux technologies de l'information est maîtrisé au sein de la structure. L'Office de tourisme catégorie développe une politique de promotion ciblée et met en œuvre des outils d'écoute de la clientèle de nature à améliorer la qualité des services rendus et de ceux de ses partenaires œuvrant dans sa zone géographique d'intervention. Il inscrit ses actions dans une démarche promouvant la qualité dans le but d'améliorer ses prestations de services et sa performance globale. Il est par conséquent proposé au Conseil communautaire d'autoriser le dépôt auprès de la préfecture des Landes du dossier de classement de l'Office du tourisme en première catégorie.
Merci. Bon, je pense que personne ne va s'y opposer. A priori, nous avons tous les critères qui vont bien. Pas de questions. Alors, il faut que nous passions cette délibération pour que l'Office de tourisme... Il est indépendant, mais pas tout à fait indépendant quand même. Et puis pas du tout indépendant, puisqu'il dépend quand même des subventions, ouais, des lourdes subventions de l'agglomération. Y a-t-il des avis contre? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Bon, un autre office de tourisme travaille, parce que c'est quand même excessivement important dans ce domaine, on ne doit pas travailler isolé. Travaille avec l'office de tourisme de Saint-Sevé, avec l'office de tourisme de l'Armagnac, et il propose des actions communes et les diffusions. Je crois que ce qui est important, c'est d'avoir dans l'est du département que nous ayons des structures touristiques qui travaillent bien ensemble pour pouvoir promouvoir notre territoire dans sa globalité. Donc je fais voter ça, oui. Alors là, je suis désolée, mais bon, ça va aller vite. Nous devons repasser une désignation avec vote. Alors je suis désolée parce que nous n'avons pas été très cohérents et j'en prends la responsabilité.
C'est-à-dire que nous avons voté pour la désignation de membres au sein d'organismes extérieurs et particulièrement pour l'ALPI, l'Agence landaise pour l'informatique. Et nous avons voté pour Thierry Socodia-Béer et titulaire et Olivier Boisset en délégué suppléant. Alors, Olivier Boisset ne pose pas de problème. Au contraire, c'est Thierry Socodia-Béer, il n'en pose pas non plus. Mais il se trouve que le vice-président au numérique, c'est Frédéric Carrère. Et qu'il serait bien quand même qu'il y ait une continuité, une visibilité dans les attributions de chacun et puis qu'il puisse suivre les dossiers de façon pertinente. Donc, je vous propose de désigner Frédéric Carrère en représentant titulaire, Olivier Boisset, bien sûr, en représentant suppléant, s'il le veut toujours. Oui, il me fait oui, parce que je demande. Et par contre, il faut que nous votions. Donc, vous allez avoir des petits papiers, mais ça va aller très, très vite. Vous allez avoir des petits papiers qui ont peut-être été même pré-imprimés, comme ça, vous n'aurez peut-être pas à écrire. C'est vrai, ils ont été pré-imprimés. Voilà, vous avez quelque chose de très facile à faire. Voilà. Et nous allons... vous pouvez barrer si vous voulez, mais je ne vois pas l'intérêt. Alors, il nous faut... deux jeunes assesseurs, moins jeunes, allez, celui qui veut se dévouer.
On pourrait prendre deux vieux, Joël, par exemple.
Laetitia. Nicolas se cache. Non. Nicolas arrive.
Moi, j'aurais pris Joël Bonnet et Jean-Paul Alire, ils sont faciles pour sortir.
Deux vieux, quoi. Non, mais ça y est, les jeunes arrivent, hein, Jean-Paul. Ouais, c'est bon. Ils sont l'Est, oui. Alors que ceux qui ont des procurations le disent et votent deux fois, afin que nous allions le plus rapidement possible. Il manque des...
Nicolas.
Là-bas.
Nicolas. Il m'en faut un.
Néa Swat Kana.
Merci, Jean.
Parfait.
Clairement. Ouais, c'est bon, ça.
J'ai pas.
Ah, pardon.
Non, voilà.
Moi non plus,
tant qu'on y est. Tu les plies pas, moi je les plie en quatre. Ça fout. Bien.
62 votants. Merci.
Alors vous savez que ces votes à bulletin secret, ça n'a surpris beaucoup, mais...
nous avons bien fait de les faire parce que monsieur le préfet a rappelé beaucoup de communes, de collectivités qui n'avaient pas fait ses votes à bulletin secret pour les syndicats mixtes.
Tiens, qui c'est qui dit là ? Je t'allume le micro.
Liste entière.
Oui.
Liste entière. Pratique. Liste entière. 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 Liste entière, 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 liste entière. Est-ce que c'est nul avec comme
c'est barré ?
C'est nul, hein ? Liste entière, liste entière, liste entière. Liste entière, 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 liste entière. Liste entière, 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 liste entière. Liste entière, liste entière, liste entière, liste entière, liste entière.
Merci beaucoup. Donc 61 voix et un bulletin nul. Donc bravo Frédéric et bravo Olivier Boissé pour cette magnifique élection. Et merci à vous de votre participation efficace. Nous devons désigner maintenant des membres au sein du Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine. Je vous propose en tant que représentant titulaire Jean-Yves Paronneau et représentant suppléant Guy Sibu. Y a-t-il d'autres candidatures ? On ne sait jamais quand même. Les accepte. Il n'y en a pas. Donc pas d'avis. Ça peut être voté à main levée. Si tout le monde est d'accord pour qu'on le vote à main levée, j'imagine que tout le monde est d'accord, bien sûr. Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. La désignation de membres au sein du Conseil départemental de l'accès au droit. Je vous propose Muriel Croze en tant que titulaire, représentant titulaire, et Christian Senet, il est où Christian ? Je suis perdu dans cette organisation. Vous acceptez Christian ? Ou si quelqu'un veut être suppléant Christian Senet alors, en tant que suppléant. Pas d'avis contre ? Pas d'abstention ? C'est adopté à l'unanimité. Les membres du Fonds d'aide aux jeunes. Donc le Fonds d'aide aux jeunes est donc géré, vous le savez, par notre agglomération et le CIAS en particulier. C'est un fonds qui est abondé par le Conseil général et par l'agglomération. Nous avons 6 membres, un représentant du Conseil général, un représentant de l'organisme gestionnaire du fonds, 2 représentants des associations intervenant auprès des jeunes, un représentant de la direction de la solidarité départementale et un représentant des financeurs, dont le Marsan Agglomération. Donc nous avons besoin de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant. Je propose Cathy Piquet. Non. Muriel Croze. Muriel.
Donc Muriel Croze. Et Laetitia Tachon. Enfin, je mets un Saint-Pierre-du-Mont, un Mont-de-Marsan, parce que la très très grande majorité des dossiers, sont des jeunes de Saint-Pierre-du-Mont et de Mont-de-Marsan. Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. La désignation donc des membres au sein de la Fédération nationale des scouts. Pierre Mallet en représentant titulaire et Guy Sibu en représentant suppléant. Y a-t-il d'autres candidats ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. La désignation au sein de l'Association des villes et intercommunalités support des parcs naturels urbains. Nous en faisions déjà partie. Hein. Donc c'était Jean-Yves Paronneau et je propose de l'y laisser parce que c'est lui qui porte ses dossiers ici dans notre collectivité. Et Thierry Socodia-Béher en tant que membre suppléant. Des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté. La désignation des membres à la commission intercommunale des impôts directs. Alors, nous avons 11 membres. Nous devons proposer notre collectivité 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires, dont un domicilié en dehors du périmètre de l'EPCI, et 20 autres personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants. Et parmi ces 20 personnes, je pense qu'ils en choisissent 10. Voilà, 10 titulaires et 10 suppléants. Alors, vous avez dans vos documents, je crois, une liste incomplète. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas les noms ? Bon, alors, il y a un travail qui a été fait en amont avec les communes, parce que sinon, c'était impossible. Alors, je vais vous lire la liste des noms. Donc, pour la commune de Mont-de-Marsan, donc, Madame Danielle Moncoussi, Monsieur André Lagouette, Monsieur Louis Couturier, Monsieur Jean-Jacques Lachial, Elisabeth Clavé, Michel Vélan, Philippe de Marnix, Jean-François Lagouette, Jean Cossade, Jean-Claude Priam, Daniel Lenx, Jean-Marie pour Saint-Pierre-du-Mont, Jean-Marie Bail, François Labarthe, Vincent Rucois, Philippe Palas. Il est élu ? Il ne faut pas qu'il soit élu ? Ah si, ils peuvent être élus ? Ah pardon, excusez-moi, j'avais mal compris. Fabienne Crit. Saint-Perdon, Régine Néligue, Saint-Avit, Christian Dunouau, et hors agglomération, Jean de Massia et Bernard Casalis. Pour Benquet, Quittery, Sarah, pour Bostens, Françoise Duguet, pour Boug, Alain Escarpite, pour Bretagne, Alain Bentéjac, pour Campagne, Janie Pouille-Ségur, pour Campette, Jean-Marie Esquier, pour Gaillère, Bernard Dubois, pour Jeloux, Dominique Rat, pour La Glorieuse, Jean-Jacques Loubéry, pour Luc Bardès, Robert Duézoméral, pour Mazerolles, Jean-Pierre Bancon, pour Mont-de-Marsan, c'est quoi ça ? Je comprends rien là. Pour Mont-de-Marsan, il y a. C'est un suppléant, pardon, excusez-moi. Nanou Bancon, pour Pouille-de-Sault, Pierre Salibartan, pour Saint-Avit, William Raison. Pour Saint-Martin-Donné, Jean-Paul Le Tiran. Pour Saint-Pierre-du-Mont, Pascal Hull. C'est les suppléants, oui. Pour Saint-Perdon, Jean-Loup Lalanne. Pour Uchac et Parentis, Denis Capdeviol. Et hors agglomération, Christian Lulin et Patrick Vattier. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des commentaires à faire, des noms à changer ? Enfin, voilà. Non, j'espère que non, parce que ça va être compliqué.
Ouais, en fait, c'est, voilà.
Ouais, c'est au prorata de l'importance de la CFE, hein. Et des communes où il y a le plus, où il y a des activités. Hein. C'est pour ça qu'il y a en titulaire Mont-de-Marsan, Saint-Pierre-du-Mont, Saint-Perdon et Saint-Avit. Voilà. Hein. Bien, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Parfait. La désignation de membres à la commission locale de l'eau, le schéma d'aménagement de gestion des eaux, le SAGE de la Midouze. Bon, tu y avais Mont-de-Marsan, toi. Voilà. Donc, Thierry Socodia-Béard y est mes représentants pour la ville de Mont-de-Marsan. Donc, il me faut un autre nom, s'il vous plaît. Qui c'est qui est au... Qui c'est qui est au syndicat mixte de la Midouze, par exemple ? Ici. Joël ? Ben là, hein, au SAGE du bassin versant, ouais. Joël Mallet, si vous êtes d'accord. Pas d'avis contre, pas d'abstention, je vous remercie. Alors là, j'ai pas pu mettre de nom, je vous prie de m'excuser, mais ça a été un peu difficile, pas vous proposer de nom, je voudrais quand même qu'on arrive au bout. Jusqu'à présent, nous n'avions pas de représentants, notre intercommunalité n'avait pas de représentants dans les établissements d'enseignement, lycée et collège, et dans les conseils d'administration, bien sûr. Hein. Et nous devons désigner des représentants pour un représentant par établissement pour participer au conseil d'administration des établissements, sachant d'ailleurs que nous avons une voix non délibérative. Enfin bref, on est membre de droit et on ne participe pas aux délibérations. Voilà. Alors, il faut que je mette des... Alors, le problème, c'est que dans les établissements, ils sont essentiellement Montois et Saint-Pierrois, et que dans ces établissements, il y a déjà des élus de Mont-de-Marsan et de Saint-Pierre-du-Mont. Donc... Si les communes, les autres communes de l'agglomération veulent participer et savoir ce qui se passe dans les établissements d'enseignement, lycée, collège et voilà, lycée, collège et les Réa Brémontier, voilà, c'est bien. Et ils sont pas, voilà. Pour le lycée d'Espio. Ah, sinon je prends ma liste. Pierre Mallet, c'est le premier que j'ai sur la liste.
Il faut savoir lire et compter. Je ne sais ni lire ni compter.
Bon, pour le lycée d'Espio, y a-t-il des candidats particuliers ? Il n'y en a pas. Donc Pierre Mallet.
Non mais. Rêves, toi.
Je rêve pas, non. Pour le lycée d'Uruy.
Non, t'as des candidates.
Pour le lycée d'Uruy.
Qui veut aller à Despieux aussi d'ailleurs. Ça non, mais il n'y a pas de problème. Moi, je suis très partageux.
Marie-Denis. Voilà, je cherchais son prénom. Marie-Denis. Pour le lycée professionnel Estève. Michel Garcia. Très bien. Ils sont formidables. Ah, il est dans la branche automobile. Pour le lycée professionnel Vléric.
Couture.
Oh, il n'y a pas que de la couture. Hein. Non, non. Il y a de la vente, il y a du sanitaire et social. C'est un lycée professionnel très intéressant.
Ah, sanitaire et social.
Ah, mais c'est absolument superbe. Denis Capdeviol. Mais je vais redemander à la fin. Pour le collège Victor Duruy. Vous n'avez pas des enfants dans vos communes qui vont au collège Victor Duruy ? Certains, ça peut vous intéresser. Enfin, moi, j'ai pas. Je regarde le canton de Nord, ils sont où ?
Des petits enfants.
Il n'y a pas d'enfants. Hein ? Guy Sibu. Le collège Jean Rostand. Ah, c'est Dario Thor. Le collège Celle-le-Gaucher.
collège Selle-le-Bauchet. Il y a des personnes de La Glorieuse, de Bougues, de Mazerolles qui vont... Pardon ? Mais ça peut être vos suppléants aussi, hein. Ça peut être un suppléant, ça peut être voir un voilà. Non, vous. Je mets quelqu'un hein, quand même. Hein? Bon.
Cathy.
Ah super Cathy. Mais il faut parler, Cathy. Il faut appuyer sur le. Ah oui, mais Cathy de même. Léréa Brémontier, Babette Soulignac et le collège Lubé Barbon. Oh Christine, formidable. Ben, c'est très bien, je vous remercie infiniment. Et est-ce que le lycée Charles Despiau, quelqu'un est absolument intéressé parce que je sens que Pierre. Le fait qu'il n'y ait pas de voix délibérative, ça le branche pas. Non, vraiment, personne ? Bon, allez, je le laisse. Donc, au lycée Despiau, Pierre Mallet. Au lycée Duruy, Marie-Denis. Au lycée Estève, Michel Garcia. Au lycée Vléric, Denis Capdeviol. Au collège Victor Duruy, Guy Sibu. Au collège Jean Rostand. Qui c'est que j'ai dit ? Ah oui, Jean-Louis Dariotor, oh là là. Au collège Selle-le-Bauchet, Cathy Demême, Aléréa Brémontier, Babette Soulignac, et au collège Lubé Barbon, Christine Lamotte.
Félicitations.
Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Le droit à la formation des élus communautaires. Bon, alors vous savez que les élus communautaires, enfin les élus dans toutes les collectivités ont un droit à la formation et qu'il y a des enveloppes qui doivent être dévolues à la formation des élus et c'est une bonne chose. Donc je vous propose donc de valider les orientations suivantes en matière de formation. Bon, c'est gestion des politiques locales d'un EPCI, hein, tout simplement, finances publiques, démocratie locale, intercommunalité. Les acquisitions de connaissances sur les compétences d'une communauté d'agglomération, le développement des connaissances, des compétences personnelles, hein, prise de parole, négociation, langue étrangère, enfin bon, il peut y avoir des thèmes qui sont importants pour le travail des élus. Et je vous propose de fixer le montant des dépenses de formation à une enveloppe de 31 000 euros par an, qui correspond à la somme de 500 euros par conseiller communautaire. En fait, ça représente 10% de l'enveloppe globale d'indemnité de fonction pouvant être allouée aux membres du conseil communautaire. Alors, on pourrait aller au-delà, hein, mais je pense que ça suffit, quoi. Voilà, hein, c'est pas besoin d'être rationné, mais c'est pas la peine d'inscrire au budget des enveloppes qui ne seront pas dépensées. Avez-vous des avis là-dessus qui seraient contraires ? Donc, pas d'avis contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Nous allons passer maintenant au marché public, Hervé, avec Navenant pour le groupement des scènes de ville Ingérop pour l'entrée ouest dans la partie ville de Mont-de-Marsan. Hervé Bayard.
Merci Madame la Présidente. Donc il s'agit de signer un avenant au contrat numéro 2, donc au contrat de maîtrise d'œuvre du groupement des scènes de ville. Ça concerne l'entrée ouest de la ville de Mont-de-Marsan. Donc, à l'occasion de ce projet, le cabinet donc, d'ingénierie Ingérop a été sollicité, notamment concernant le belvédère. Et donc, il a été amené à réaliser des études complémentaires. Donc, l'avenant à ce contrat concerne une hausse de 14,20% du montant du forfait initial, c'est-à-dire 14 907,26 euros. Et donc, dans cette délibération, il vous est proposé donc. D'accord, d'accepter cet avenant numéro 2.
Y avez-vous des questions ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité.
La deuxième délibération sur les marchés publics concerne l'autorisation de signer un marché d'achat de prestations de téléphonie fixe et mobile dans le cadre du groupement de commandes de téléphonie. Hervé Bayard.
Alors donc, dans cette délibération, en effet, il est proposé de signer donc un marché d'achat de prestations de téléphonie, c'est indiqué dans le titre. Donc le Marsan Agglomération est coordonnateur du groupement de commandes constitué entre le Marsan Agglomération et le Centre intercommunal d'action sociale en vue d'acheter des prestations de téléphonie fixe et mobile. À ce titre, le coordonnateur du groupement a été habilité à lancer la procédure de publicité et de mise en concurrence dans le cadre des dispositions du Code des marchés publics. En l'espèce, il s'agit d'un marché sur appel d'offres ouvert et en la forme de bons de commande d'une durée initiale d'un an à compter de sa notification et susceptible d'être reconduit deux fois par période d'une année. Donc vous avez la description du marché qui suit avec le lot numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Et donc dans cette délibération, il vous est proposé donc d'autoriser la signature de ce marché.
Des questions ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Alors, il y a pas mal de délibérations techniques, hein, mais bon, il faut les passer. Donc, groupement, alors là, il faut que nous désignions des membres, des représentants pour un groupement de commandes en matière de performance énergétique des bâtiments. Donc, ces représentants, ils doivent être... il faut un titulaire et un suppléant. Ils doivent appartenir, je pense, à la commission d'appel d'offres de la communauté. Nous sommes 6. Et je vous propose Hervé Bayard en tant que représentant titulaire et Jean-Yves Parounon, représentant suppléant. Pas d'avis contre, pas d'abstention. C'est adopté. Même chose pour le groupement de commandes pour l'achat de prestations de téléphonie fixe et mobile. Donc Hervé Bayard en titulaire et Pierre Mallet en suppléant. Il a dit oui. C'est pas comme pour le lycée. Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté. Le groupement de commandes, fourniture de matériel informatique, matériel de réseau et prestations associées. Il y en a deux là. Et fourniture de logiciels, pro-logiciels et prestations associées. Alors nous devons avoir un titulaire et un suppléant pour les matériels informatiques, matériel réseau et prestations associées. Je vous propose Hervé Bayard et Dominique Clavé, il n'est pas là. Il est d'accord, donc. Et le groupement logiciel, pro-logiciel et prestations associées. Pas d'avis contre, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. Il y a une résiliation de marché portant sur la fourniture de documents imprimés, CD, DVD et CD-ROM. Le lot 5, c'est pour la médiathèque. Bon, il s'avère, si je fais court, que ce lot a été attribué à la librairie Priva et que, en fait, ils ne répondent pas vraiment à nos commandes, ni dans les délais, ni dans la forme, ni dans le fond. Donc, nous vous proposons tout simplement, puisqu'il y a quand même, postérieurement à la signature du marché, il y a des motifs de résiliation qui ne nécessitent pas une mise en demeure préalable de l'entreprise et je vous demande d'approuver la résiliation pour faute du titulaire du marché, tout simplement. Bon, c'est pas un très très gros marché, mais c'est vrai que la médiathèque est très ennuyée dans ce fonctionnement, enfin pour ses commandes avec avec ce fournisseur, donc ils vont relancer, j'imagine, un marché pour ses ouvrages. Voilà. Pas d'avis contre, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. Et nous en venons aux délibérations sur les ressources humaines. Création d'un emploi d'administrateur territorial, Pierre Mallet.
Notre actuelle directrice générale des services a fait valoir sa demande de mutation. Donc, pour pourvoir à son remplacement, il nous propose au conseil communautaire de créer un emploi d'administrateur. En effet, comme le prévoit le statut de la fonction publique territoriale, les administrateurs peuvent exercer l'emploi de directeur général des services d'établissement public assimilable à une commune de plus de 40 000 habitants.
Avez-vous des questions ? Alors j'en profite, puisqu'on en est là et puis que je l'ai dans le dos, pour dire que Nathalie Humbach va nous quitter. C'est son choix, hein. Elle part à Narbonne, elle reste dans le sud, où elle va être dans une commune, enfin, je sais pas, il y a combien d'habitants à Narbonne ? 55 000, oui, voilà, c'est à peu près la strate de population, mais ce sera une commune, une belle commune. Donc elle part, je pense, mi-août, et donc nous sommes en recrutement d'un directeur général ou d'une directrice générale des services. Et en fait, la création de ce poste d'administrateur est tout simplement mis en œuvre pour pouvoir nous permettre d'accepter les personnes qui auraient ce grade et qui postuleraient ici, puisque nous n'avons pas sinon ce poste dans notre tableau d'emploi. Voilà, tout simplement. On profitera pour remercier Nathalie en fin de séance. Y a-t-il des questions là-dessus ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Le recrutement de l'agent contractuel aux fonctions de chargé de mission gestion des clauses d'insertion, Pierre Mallet.
Le développement, la mise en œuvre et le suivi des clauses de la clause d'insertion sociale dans les marchés publics de tout donneur d'ordre sur l'agglomération, ainsi que les travaux relevant du programme national de rénovation urbaine en rue, sont une des priorités du Marseille Agglomération. Les spécificités de cette fonction n'ont pas permis de pourvoir ce poste par un fonctionnaire, soit par voie de mutation, de détachement. Donc il vous est proposé de recruter par voie contractuelle un agent pour une durée de 3 ans. Bien sûr, cette dépense est inscrite au budget. C'est un grade rédacteur territorial, poste à temps complet.
Et cet agent existe actuellement et travaille actuellement, mais son contrat s'arrêtait, était de 1 an et s'arrêtait là. Donc il s'agit de prolonger tout simplement la fonction de ce collaborateur. Qui est absolument indispensable pour la mise en œuvre de toutes les politiques d'insertion que nous mettons en place. Et je vous rappelle quand même que rien que sur les marchés publics, les clauses d'insertion de marchés publics, sur nos marchés, nous avons généré 22 000 heures d'heures d'insertion, ce qui a donné des emplois à plus de 200 personnes, je crois, en fonction des chantiers et des postes, et qui surtout a permis... Alors je regrette parce que je n'ai pas pris le bilan que j'avais sur mon bureau, mais ce n'est pas grave, qui a permis à ces personnes loin de l'emploi de pouvoir d'abord travailler et se former en même temps, et ensuite, il y a des pérennisations d'emplois en CDD, en CDI... Et ce sont vraiment des dispositifs qui sont excessivement intéressants pour les personnes loin de l'emploi et sans formation. Donc il faut vraiment que nous continuions dans ce sens parce que, il y a vraiment... quelquefois, on n'arrive pas à mesurer les politiques qu'on met en place, mais là, véritablement, je peux vous assurer qu'on les mesure, que c'est important. Donc nous avons besoin de ce collaborateur et de ce poste. Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Je rappellerai d'ailleurs que pour ce collaborateur, nous avons des aides. Alors elles vont s'épuiser cette année puisqu'il y a un changement qui va avec la nouvelle loi de Madame Vallaud-Belkacem, mais nous avions des fonds CUX qui venaient financer en partie ce poste, hein, de ce poste d'agent. Voilà. Le recrutement de l'agent contractuel aux fonctions de chargé de mission... excusez-moi. Un agent contractuel aux fonctions de directeur technique de spectacle, Pierre Mallet.
Par délibération du 4 décembre 2012, une indemnité accessoire avait été créée pour l'emploi d'un directeur technique au pôle culturel dans le cadre d'un cumul d'activités, considérant la complexité de ce poste ainsi que la charge de travail inhérente à cette fonction, il est proposé de recruter un directeur technique de spectacle au pôle culturel du Marsan. Aucun fonctionnaire n'a pu être recruté. Nous vous proposons donc la création d'un agent contractuel au grade d'ingénieur territorial pour une durée de 3 ans, qui fera office de directeur technique de ce pôle culturel.
Avez-vous des questions ? Bon, c'est un emploi qui était pourvu au démarrage du pôle culturel. Ensuite, l'agent était parti. Nous n'avions pas remplacé ce poste. Avons beaucoup recours aux intermittents du spectacle, mais c'est un équipement qui est excessivement technique et qui nécessite réellement d'avoir un directeur technique et qui gère aussi les intermittents du spectacle et qui gérera d'ailleurs au-delà du pôle culturel aussi toutes les politiques, toutes les techniques de toutes les salles, puisque nous avons un service qui est mutualisé de toutes les salles, que ce soit aussi Montoise également. Voilà, avec les agents techniciens qui seront sous ces responsabilités. Un avis contre, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Dernière délibération, toujours les ressources humaines. Pierre Mallet.
Les frais de mission et de déplacement des conseillers communautaires et des agents, les frais de mission et de déplacement des membres du conseil communautaire et de son personnel et du personnel de la communauté peuvent être pris en charge par le budget communautaire sous certaines conditions. Les frais de mission pour les déplacements des conseillers communautaires, les conseillers communautaires peuvent être défrayés pour leurs frais de séjour à hauteur de 45 euros pour la province et 60 euros pour la région parisienne. Et l'indemnité de nuitée de 15,25 € au titre de l'indemnité des repas. Les dépenses de transport pourront aussi être prises en charge sur présentation d'un état de frais accompagné des factures acquittées. Les frais liés à l'exécution de mandats spéciaux. Le mandat spécial devrait être conféré de manière expresse par la présidente dès lors que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. Frais de mission et de déplacement des agents. Les agents pourront aussi avoir les prises en charge selon les mêmes conditions, les frais de repas et d'hébergement sur les mêmes montants, frais d'hébergement à 45 euros pour la province et 60 euros pour la région parisienne, 15 euros pour les frais de repas. Les frais de déplacement peuvent éventuellement aussi être pris en charge dans la mesure où ils sont justifiés et ont une utilité. L'utilisation d'un véhicule ou location d'un taxi ou même la prise d'un déplacement en avion sera autorisé lorsque ce coût est moins 1 euro que notre moyen de transport ou que le chef de service estime qu'il y a un gain de temps indéniable. En fait, cette délibération est un peu un toilettage de ce qui se faisait au niveau de l'agglomération. Il y avait aussi les indemnités en cas de stage. Aucune indemnisation n'est assurée par la collectivité pour les stages effectués auprès du CNFPT qui rembourse directement les agents qui font le stage. En ce qui concerne les frais de déplacement lors d'une préparation d'un examen ou d'un concours ou de participation à un examen ou un concours, l'agent autorisé à participer à une préparation ou à un examen de concours pourra prétendre à la prise en charge de ces frais. Il est proposé de fixer l'indemnité de repas à 7,50 euros. L'agent amené à se présenter à des épreuves d'admissibilité ou d'admission à un concours ou à un examen peut prétendre à la prise en charge de ses frais de déplacement, et ce dans la limite d'une session par an. Voilà, c'est du toilettage, c'était à peu près ce qui était déjà appliqué. Sauf que maintenant, il y a une uniformité entre les conseillers communautaires et le personnel de l'agglomération.
Voilà. Y a-t-il des avis contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette séance où il y avait beaucoup de points techniques, mais enfin, il y avait quand même un ou deux points importants, et surtout le premier. Je vous remercie beaucoup. Je vous donne deux ou trois informations. Bon, la première, vous l'avez sur votre table. Nous allons avoir un mois de juillet chargé, avec d'abord le Festival Flamenco, puis les fêtes de la Madeleine. Donc, il y a les fêtes dans vos communes respectives qui se déroulent toutes les semaines. C'est pas facile d'être élu. Et je veux vous dire aussi que les neuf fontaines sont en complète voie d'achèvement, on va dire, hein,
et que nous envisageons une inauguration durant l'été. Alors voilà. Oui, alors Jean-Yves dit fin juillet ou voilà. Hein. On trouvera une date rapidement pour que chacun soit informé suffisamment tôt. À savoir que c'est quand même un très beau site et que les aménagements qui ont été réalisés, je crois qu'on peut, on peut en être fier aussi, et que de nombreuses activités vont se développer autour de ce site, où il y a aussi quand même une... Ça va faire plaisir à Madame Soulignac, où il y a aussi quand même une fibre d'agriculteur qui produit sur place et qui fait des circuits courts. Donc vous voyez que nous encourageons quand même aussi tout cela, puisque nous avons rénové, retapé la maison, les granges, pour que le chevrier puisse travailler là. Donc voilà, nous sommes tout à fait dans la gestion d'un site et aussi le développement durable. Ce sera aussi un très beau site pour les jeunes, où il pourra y avoir de l'observation de la nature, de l'observation de la biodiversité, les cistudes, enfin bon, tout un... voilà, des programmes très intéressants, et c'est un point aussi que nous pourrons développer dans les propositions, les offres de sites à visiter pour les touristes qui viendront sur notre territoire, puisque l'Office de tourisme va gérer deux logements qui sont des meublés, et qu'il y a également sur le site un accueil des pèlerins de Saint-Jacques, qui est lancé, puisque vous savez que Bostain, c'est sur la route de Saint-Jacques. Voilà. Et que donc, voilà, c'est vraiment un site qui sera intéressant pour... C'est vrai qu'on a mis un petit peu de temps, mais c'est le premier qui est terminé de tous les... du parc naturel urbain. Je crois que c'est assez symbolique, et nous allons attaquer maintenant progressivement les autres sites. Oui, voilà, comme dit Jean-Yves, nous avons voulu être irréprochables, et ça a été un peu long, mais ce sera parfait, et c'est parfait. Voilà, merci beaucoup. Ah oui, alors, chers amis, tiens, tu vas le dire tout seul. Parce que...
Dans le cas de l'opération de tablette pour tous, qui permet entre autres la démat des documents communautaires, on vous a joué un petit questionnaire pour connaître vos usages et coutumes à l'utilisation de la tablette ou pas. Et si vous avez répondu au questionnaire, il y a la bannette en sortant à droite. Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à nous le renvoyer rapidement. Merci.
Ah, il faut que je le fasse, moi aussi.
Et tout le monde.
Je n'ai pas eu le questionnaire.